Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jessica Baudet.
Bonjour à tous, c'est à un voyage dans le temps que nous vous convions aujourd'hui dans Éclairage. Voyage qui nous ramène au 26 août 1660. Louis XIV est de retour dans la capitale avec sa jeune épouse, l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. Du coup, Paris a des airs de fête. Il faut dire que l'événement est de taille puisqu'il met fin à des années de guerre entre la France et l'Espagne. Le cortège royal est maintenant à hauteur de l'hôtel de Beauvais. Depuis le balcon, on peut apercevoir une jeune femme brune au teint hâlé. Son regard est rivé sur le beau Louis XIV, non sans une certaine tristesse, puisqu'elle fut l'un de ses grands amours de jeunesse. Elle s'appelle Marie Mancini. C'est donc de cette passion royale dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de l'historienne Claude Dulon. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et auteur du livre Marie Mancini, publié aux éditions Perrin. Difficile d'évoquer l'histoire d'amour de Louis XIV et de Marie Mancini sans s'intéresser un tant soit peu à la personnalité de Mazarin. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le cardinal joue un rôle de toute importance dans cette idylle, rôle dont l'influence s'étend à Louis XIV, mais aussi à Marie Mancini, car pour le cardinal Claude Dulon, Marie Mancini est loin d'être une jeune femme ordinaire.
Eh bien, c'est tout d'abord sa nièce, ce qui est très important. Une fois installée en France, le cardinal a fait venir peu à peu ses nièces, qui évidemment allaient maintenant, grâce à lui, risquer de trouver de plus beaux partis en France qu'en Italie. Et donc, Marie est arrivée en 1653, alors que déjà les aînés étaient venus. Elle avait 14 ans et il a fallu la dégrossir, en faire une jeune fille digne d'être montrée à la cour. Et comme elle était intelligente, elle a été tout à fait capable de jouer son rôle.
Alors, comme Marie Mancini, Mazarin est d'origine italienne. Quelle fonction occupe-t-il à Rome avant justement d'arriver à la cour de France ?
Eh bien, d'abord, il a choisi la carrière ecclésiastique parce que, vous savez, dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent, c'était un moyen de parvenir à l'époque. C'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Et il aurait préféré être militaire. Mais enfin, il a été ecclésiastique, il est peu à peu monté dans la hiérarchie, il a été protégé par une grande famille romaine, les Colonna, comme ça se faisait à l'époque. Et il a été employé très tôt par le pape comme diplomate. Et c'est comme cela qu'il s'est fait connaître d'abord de Richelieu, premier ministre avant Mazarin, et ensuite de Mazarin.
Alors, comme vous le disiez à l'instant, c'est Richelieu qui introduit Mazarin à la cour de France auprès de Louis XIII. Comment expliquer que Mazarin soit promu cardinal alors qu'il n'est même pas prêtre, Claude Dulon ?
Eh bien, écoutez, ça se faisait dans l'église du XVIIe siècle. Il avait quand même reçu ce qu'on appelle les ordres mineurs. Il était clair, comme on disait, mais il n'avait pas prononcé les ordres qu'il faut aujourd'hui prononcer pour être cardinal. L'église est beaucoup plus vertueuse maintenant qu'elle l'était autrefois, je veux dire en tant que corps. Mais donc, il a pu être cardinal, ce qui évidemment, pour quelqu'un qui a une toute petite naissance, une toute petite famille, vous donne tout de suite, vous met de plein pied avec les princes du sang.
Et le cardinal, en fait, a tellement été apprécié de Louis XIII qu'il devient même le parrain du jeune Louis XIV. Quelle place occupe dès lors le cardinal dans la vie jeune roi et quel type de relations entretiennent-ils tous les deux ?
Mazarin, donc, après la mort de Louis XIII, est appelé au conseil par la régente, qui est normalement la mère du roi et la régente. Donc Anne d'Autriche devient régente d'office et à la stupeur générale, elle appelle Mazarin au conseil. Stupeur qui donne lieu d'ailleurs à beaucoup de ragots qu'on connaît. Et Mazarin sait bien que sa situation est très disputée. D'abord, il est italien. Et il a l'idée de demander à la reine de parrainer le petit Louis XIV, qui est un enfant de 4 ans quand son père meurt, et de se faire accorder la surintendance de l'éducation de Louis XIV. Car cet enfant n'a que 4 ans, mais un jour il en aura 20, et il ne faut pas que Mazarin se trouve en difficulté. Alors, étant à la fois chef du conseil, parrain du roi et chef de son éducation, il a beaucoup d'atouts pour tenir en main la politique intérieure et extérieure.
La confiance que la reine Anne d'Autriche met en Mazarin ne s'explique-t-elle pas également par la prétendue relation amoureuse, liaison dont le frère de la future madame de Montespan se fera plus tard l'écho auprès du jeune Louis XIV quand celui-ci s'opposera à sa mère à propos de Marie Mancini?
Oui, d'ailleurs, ce mot du jeune Vivonne, c'était le frère de la future Montespan. Anne d'Autriche et Mazarin ont été affolés quand ils ont su que ce jeune homme avait pu dire une chose comme ça à Louis XIV et ils l'ont fait renvoyer de la cour. Alors, est-ce que ça prouve que la chose était vraie ou non? Bien fin qui pourrait le dire. En tout cas, moi, j'ai étudié de très près les quelques lettres autographes qui subsistent, car tout a été brûlé, mais il subsiste 12 lettres autographes d'Anne d'Autriche à Mazarin. Je ne vois pas comment une femme qui n'est pas amoureuse pourrait écrire des lettres pareilles, surtout quand elle est reine. Alors, ce que je crois, là, je vous donne mon avis personnel, on peut en avoir un autre, je crois qu'elle a eu pour lui une profonde affection, qui a eu une coloration d'amour, et que lui a simplement essayé de se faire d'elle l'appui nécessaire. Maintenant, vous dire s'ils ont franchi certaines bornes, vous savez, pour les gens du XVIIe siècle, c'était pas comme au XXe. Et on peut très bien imaginer un amour de tête. Je ne crois pas qu'il était partagé. Je crois qu'elle l'a aimé, parce que les lettres sont d'un abandon et d'une affection surprenante. Et lui, on sent très bien que c'est du langage, que il fait l'amoureux plus qu'il ne l'est.
Oui, il arrive aussi à Mazarin de faire des reproches, je crois, à la reine, en tout cas de se positionner comme défenseur de la reine quand elle a un courtisan qui apparaît trop proche.
Ah oui, mais ça c'est difficile encore une fois de juger par là, car tout favori au sens politique du mot doit se méfier comme de la peste de ceux qui voudraient prendre sa place. Surtout que naturellement la politique se mêle à cela, on va en parler, je pense Mazarin a une politique et il ne veut pas que des personnalités qui en auraient une autre influencent la reine.
Alors justement, à propos de politique, les nobles français dont les parlementaires font partie n'aiment pas beaucoup Mazarin. Que lui reproche-t-il? Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il soit italien, donc étranger, mais y a-t-il d'autres reproches que ces nobles
oui.
font?
Un second cardinal, ça leur paraît trop. Ils en ont eu un qui était Richelieu, qui a eu une poigne de fer, donc personne n'a oublié en France, et voilà qu'il se retrouve avec un second cardinal, et non pas un noble français, en plus un cardinal étranger, qui n'a pas d'attache en France, et qui, pense-t-on, va poursuivre, plutôt non. La grande déception, c'est qu'on, le seul bon côté qu'on lui reconnaît, c'est que peut-être, étant italien et l'Italie étant très proche politiquement de l'Espagne, peut-être il va faire la paix. Or, on s'aperçoit très vite qu'il reprend la politique de Richelieu et qu'il fait la guerre aux Habsbourg d'Espagne et d'Autriche. Et la guerre, ça veut dire la multiplication et le doublement des impôts, ça veut dire les invasions, ça veut dire le malheur.
En tout cas, Mazarin comprend que pour se maintenir durablement à la tête du royaume, il doit nouer de solides alliances avec la noblesse de cour. Pour atteindre son objectif, quel rôle entend-il faire jouer à ses nièces, dont Marie Mancini fait partie, Claude Dulon?
Eh bien, naturellement, il entend leur faire épouser des nobles français, des grands seigneurs français, pour avoir une sorte de casa française qui puisse l'aider et l'entourer, et qu'il s'assure l'appui de ces nobles qui peuvent être si dangereux et qui vont le montrer bientôt pendant la Fronde. Car il a réussi à conquérir l'esprit au moins de la reine, mais ça ne suffit pas. Une régence est toujours un moment de pouvoir faible, parce qu'on n'est pas aussi, on est plus critique pour une régente que pour un roi sacré, n'est-ce pas? Et Louis XIV n'est pas sacré, même enfant, et elle n'est qu'une femme régente. Mais il y a un petit miracle dont il faut dire un mot, c'est que, avant de se faire des armes avec ses nièces, il a réussi à convertir la reine espagnole à continuer la guerre avec l'Espagne. Ça a été ça son premier miracle politique. Mais ça ne suffit pas, en effet, il faut aussi convaincre les grands.
Alors, est-ce qu'il parvient justement à atteindre son objectif ?
Eh bien, les nièces, oui, vont l'aider, parce qu'il va les marier presque toutes à des princes du sang.
Alors il y a, je crois, deux familles. Il y a les nièces Mancini, il y a aussi les nièces
Martinozzi.
Il les marie pratiquement toutes.
Il les marie toutes, sauf Marie Mancini, mais on y reviendra, à des princes français, oui. À peu près toutes. Et il y en a, non, pardon, il y en a une qu'il marie au prince héritier de Modène. Et vous savez qu'actuellement, la famille d'Angleterre descend de ce mariage d'un des leurs avec une Modène au XVIIe siècle. Donc on peut dire qu'il y a du sang de Mazarin dans la famille royale anglaise.
Ce qui est drôle d'ailleurs.
Oui, c'est assez drôle.
Donc Laure Mancini se marie en 1651 avec un prince de sang, le duc de Mercœur, descendant
d'Henri
IV.
C'est la première à se marier.
Et quant à Olympe, sa sœur, elle épouse le comte de Soissons.
Autre prince du sang.
En 1657. Comment Mazarin introduit-il ses nièces à la cour de France pour la première fois ?
Eh bien, il les fait venir par petites étapes, parce qu'on ne peut pas les donner toutes crues comme ça. Alors, généralement, il y a un stage à Aix-en-Provence, qui est une ville de parlement, où il connaît des présidents au parlement, et elles ont presque toutes fait un stage à Aix-en-Provence, qui était une ville cultivée. Et alors là, elles se sont dégrossies. Et puis après, on les fait venir à Paris, mais par exemple, dans le cas de Marie, on l'a mise quand même un an en pension, pour lui apprendre les bonnes manières, le bon français, etc., avant de la produire.
Alors, comment sont considérées les nièces de Mazarin par Anne d'Autriche ?
Est-ce qu'elle... Anne d'Autriche est très aimable avec les nièces, jusqu'aux événements que nous allons voir. Elle les considère extrêmement gentiment. Elle a été parfaite avec les nièces, jusqu'à ce que les nièces donnent des soucis.
Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com. On retrouve Jessica Baudet.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de l'historienne Claude Dulon, émission consacrée aujourd'hui au premier amour de Louis XIV, amour de jeunesse qui le lia à une des nièces du cardinal Mazarin, Marie Mancini. Le futur roi soleil ne semble pas immédiatement séduit par la jeune Marie Mancini. Qui lui préfère-t-il dans son entourage très proche, Claude Dulon ?
Ben, il aura un faible un peu pour toute la Mancini, il faut dire. Mais c'est Olympe, à ce moment-là, qui est la plus jolie. C'est la comtesse de Soissons.
Quel genre de femme est Olympe Mancini ?
Olympe est donc pas très scrupuleuse, mais ça, on s'en est pas encore tout à fait rendu compte. Et il est évident, mais là, nous anticipons un peu, que même une fois mariée, elle va se laisser un peu courtiser par le roi.
En tout cas... Le futur roi soleil ne semble pas immédiatement séduit par la jeune Marie Mancini.
On la trouve maigre, ce qui à l'époque est un défaut épouvantable, et trop noire, comme on disait, c'est-à-dire trop brune.
Mais pourtant, c'est une femme que vous décrivez comme étant vive et très cultivée, ce qui est rare pour l'époque.
Elle est intelligente et elle a certainement été acquise, grappillée, je pourrais dire. La culture qu'une fille assez surveillée peut grappiller. D'abord, elle avait été dans un très bon couvent et ensuite, à la cour, les nièces du ministre ont été tout à fait flattées par les écrivains attachés à la cour. Ils leur ont écrit des vers, ils leur ont appris qui étaient les bons auteurs. Et tous ont chanté Marie en laissant entendre qu'elle était plus cultivée et qu'elle aimait plus les choses de l'esprit que ses sœurs.
On dit aussi qu'elle a beaucoup de caractère.
Ah, elle a beaucoup de caractère, elle est vive, elle est même trop vive. Mais pour le moment, tout ça est encore en demi-teinte.
Thank you. cette histoire d'amour qui lia Louis XIV à Marie Mancini, la nièce du cardinal Mazarin, passion royale dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de l'historienne Claude Dulon. Vous dites que le jeune Louis XIV va finalement être une sorte d'élève pour Marie Mancini. Il semble qu'elle serve de professeur un peu particulier.
Oui, c'est très exact. Elle a certainement, Louis XIV, qui quand même, n'exagérons pas, saura très bien lui-même discerner et protéger les grands auteurs plus tard, mais qui était plus porté à l'époque pour les exercices du corps, la chasse, etc. Et il est certain qu'elle va lui faire un peu découvrir ce monde inconnu, des poètes, de cour, des... oui, elle a joué un rôle là.
Alors, vous disiez tout à l'heure à propos de Louis XIV que c'était un homme qui se laissait facilement séduire. Comment est-ce que vous pourriez caractériser ce jeune roi ? Comment est-il ?
Alors, ce jeune roi a paru d'abord beau aux gens qui l'ont connu. On a dit qu'il était petit, c'est absolument faux. C'est une légende qui a été répandue à partir d'une vieille armure qui se trouve au musée de l'armée et à laquelle il manque une partie. Alors, il était grand. Mazarin lui-même dira qu'il le dépassait d'une tête, et personne n'a jamais dit que Mazarin était petit. Il était très habile aux exercices du corps, donc athlétique, et il a acquis, un peu grâce à Marie, un peu grâce à d'autres femmes qui ont émaillé sa vie, il a écrit des manières parfaites. Je relisais récemment le portrait que Saint-Simon a fait de lui. Il dit que personne n'avait su si bien tenir sa cour et distribuer les politesses selon la qualité des gens. Et cette chose qui est en effet exceptionnelle, il soulevait son chapeau plus ou moins à toutes les dames, même les chambrières qu'il rencontrait dans les couloirs des palais royaux.
C'est pour ça qu'on l'appelle le ver galant, comme on appelait Henri IV.
Le ver galant, quand on donnait ce nom, Henri IV avait une précision très différente.
En tout cas, le plus drôle, c'est que Louis XIV sera un mécène exceptionnel, hein, puisqu'il il va financer des auteurs comme Racine, Boileau et La Fontaine. C'est dans le cadre d'un séjour à Fontainebleau, où la famille royale a l'habitude de se rendre, que l'idylle du jeune couple va en fait commencer. Mais à quelle occasion plus précisément, Claude Dulon ?
Alors, il faut rappeler qu'il n'y avait pas Versailles, n'est-ce pas, à l'époque. C'était un pavillon de chasse. Alors, Fontainebleau, c'était le grand palais où l'on se rendait pendant l'été. Il y avait des canots, on pouvait faire, il y avait des gondoles dans lesquelles on pouvait se promener sur les canots. Et la surveillance y était évidemment moins forte qu'au Louvre. Et l'idylle a pu s'épanouir là, et la gouvernante de Marie était vraiment dépassée par les événements. On ne pouvait pas courir sans arrêt après le... Surtout que le roi, maintenant, était un homme. Alors, elle ne pouvait pas, comme elle le faisait au tout début, quand elle les voyait assis trop près l'un l'autre, elle allait s'asseoir entre eux. Mais là, c'était fini, on l'a renvoyée.
Alors vous racontez aussi dans votre livre que c'est à l'occasion d'une campagne militaire que Louis XIV est extrêmement touché par un geste de Marie Mancini. C'est la seule à le pleurer manifestement. En fait, je crois qu'il a la fièvre. Il est presque sur le point de mourir.
Il a été très malade, oui, en 58. Il a failli mourir. Et en effet, il y a des courtisans qui se sont détachés de Mazarin et qui sont allés porter leurs hommages aux frères de Louis XIV.
Philippe d'Anjou.
Oui, qui aurait été un très mauvais roi. Et là, tout le monde a vécu dans la crainte de l'avenir. Et Marie a très sincèrement pleuré le roi, comme s'il allait mourir. Et ça a beaucoup touché en effet Louis XIV, parce qu'il s'était rendu compte que bien d'autres gens ne l'avaient pas pleuré.
Après leur séjour à Fontainebleau, l'idylle du jeune couple se poursuit au cours d'un long voyage vers Lyon. Et pourtant, le but de ce voyage est loin d'être favorable aux deux amants. De quoi est-il question, Claude Dulon ?
Ah, c'est une question qui demande une double réponse, parce qu'il y a là une combinaison de Mazarin qui est assez piquante. On veut que le rêve d'Anne d'Autriche et aussi de Mazarin, c'est que Louis XIV épouse l'infante d'Espagne pour qu'on mette enfin une conclusion à cette guerre qui n'a que trop duré et qui épuise financièrement et en hommes aussi les deux monarchies. Et mais l'Espagne met du temps à se décider. Alors Mazarin a une ruse qui va d'ailleurs réussir. Il fait croire que Louis XIV va épouser la princesse de Savoie, Et toute la cour, vous voyez ce que ça a coûté, on a eu du mal d'ailleurs à payer le voyage, toute la cour se met en route vers Lyon, où doit avoir lieu la rencontre entre les deux cours. Et donc, Louis XIV, le jeune Mazarin naturellement du voyage, mais Louis XIV et Marie aussi, puisque toute la cour suit. Et dans le voyage, ils ont des occasions de changer de carrosse, de se mettre dans le même carrosse, de parler, etc. Et surtout à Lyon, la reine, Mazarin et le reste de la cour ne sont pas logés dans les mêmes endroits parce qu'il n'y avait pas de palais assez grand pour loger tout le monde. Et donc, Louis XIV a infiniment plus de facilité pour aller voir Marie.
Quand on apprend au jeune Louis XIV qu'il va épouser sa cousine Marguerite de Savoie, il accepte. Et pourtant, il semble sincèrement amoureux de Marie Mancini. Comment expliquer cette ambiguïté ?
Oh, je crois qu'il n'y a qu'une explication. C'est qu'il s'est dit, si j'épouse Marguerite de Savoie, bah, je ferai de Marie ma maîtresse. Je ne vois pas quelle autre explication on pourrait trouver.
Et comment justement réagit Marie Mancini à cette annonce,
elle a vraiment cru qu'elle pourrait épouser le roi. Elle s'est nourrie de cette chimère, ce qui était impossible. Parce que c'était toute la politique de son oncle qui s'effondrait, n'est-ce pas ? Et puis alors là, les Français auraient chassé Mazarin, vraiment, s'il avait fait épouser une de ses nièces au roi de France.
Oui, mais pourtant, ce qui est curieux, c'est que finalement, Mazarin aurait très bien pu proposer un armistice avec l'Espagne et finalement marier sa nièce à Louis XIV. Il a préféré utiliser un autre moyen. Pourquoi d'ailleurs ?
Parce qu'il était comme ça, il avait toujours des ruses plein la tête, il avait des combinaisons détournées, mais en tout cas, cette ruse-là a parfaitement réussi. Dès qu'on a su que les fiançailles étaient conclues entre le roi de France et la princesse de Savoie, le roi d'Espagne a instantanément envoyé un messager pour proposer l'infante. Alors donc, ça a réussi, vous voyez.
Jusqu'à ce que Mazarin signe les préliminaires du traité de paix avec l'Espagne en juin 59, ni lui ni Anne d'Autriche n'ignorent pourtant l'amour que Louis XIV éprouve pour Marie Mancini. Pourquoi n'interviennent-ils pas pour y mettre un terme, Claude Dumont ?
Alors, pourquoi ? La question reste posée. Pour Mazarin, il y a quand même une explication, c'est qu'il est parti avant la cour, dès que la nouvelle de l'acceptation des Espagnols a été connue, il a fallu négocier. Vous pensez qu'il y avait, c'était du donnant-donnant. Donc, Mazarin n'a pas été tout le temps à la cour. Il est parti beaucoup plus tôt que la cour vers la frontière sud-ouest pour rencontrer les négociateurs espagnols. Donc, il a moins pu surveiller. Bon, et la reine probablement était tranquille puisque son fils avait accepté l'infante, de même qu'il avait auparavant accepté Marguerite de Savoie. Elle ne s'est peut-être pas rendue compte vraiment du danger.
Mais justement, est-ce que Marie n'est pas une sorte de garde-fou par lequel Mazarin maintient son influence, par exemple, sur Louis XIV ?
On peut aussi penser ça. On peut le penser. Je ne suis pas capable de dire si c'est la vérité ou non. Je ne crois pas. Pas quand même, parce que la chose pouvait aller plus loin, elle va aller plus loin, on va en parler. Alors, en tout cas, si c'était ça, il a pris un très gros risque et il s'en est repenti.
À partir du moment où la paix avec l'Espagne devient possible, quelles dispositions le cardinal Mazarin prend-il à l'égard de sa nièce Marie Mancini ?
Eh bien, il se dit justement qu'elle ne peut pas rester, à Paris parce que les négociations vont durer longtemps. Il ne sera plus là pour surveiller la gouvernante. Vous pensez, Marie n'y fait plus du tout attention et la gouvernante n'ose pas s'opposer au roi. Et il décide de faire partir Marie dans un de ses gouvernements parce qu'il s'était fait donner pas mal de gouvernements en province. Il avait le gouvernement d'Aunis et Saintonge et il décide de faire partir Marie à La Rochelle. Ou en tout cas, elle sera éloignée de la cour, le temps que les fiançailles avec l'Espagnol soient bien au point.
En tout cas, l'éloignement de Marie n'entame pas la relation des deux amants. Comment parviennent-ils à rester en contact ?
Eh bien, alors là, entre en scène un personnage qui est Colbert. Colbert n'est rien du tout à l'époque, mais il est l'intendant de Mazarin. Et il l'aide à gagner la fortune que fait Mazarin. Mais il est très habile, il a casé toute sa famille dans l'entourage de la famille royale et du roi. Et c'est par un des membres de sa famille qu'il est trahi. Parce que, vous savez, Mazarin a beau être le ministre tout puissant, d'abord il est malade, Louis XIV a 21 ans. c'est le roi. Et il est peut-être plus astucieux de lâcher maintenant le tout-puissant ministre et de se tourner du côté du roi. Alors, si le roi dit à un de ses suivants « Arrangez-vous pour que je reçoive des lettres de mademoiselle Mancini », eh bien, ce cousin de Colbert, qui s'appelait Colbert de Théron, c'est lui qui a servi d'intermédiaire. Alors, naturellement, ça s'est su. Et il y a une lettre assez belle de Colbert, le grand Colbert, en disant à Mazarin qu'un membre de ma famille ait pu faire cela, je suis indigne de rester au service de votre éminence et je démissionne.
Ce qui est drôle, c'est que cette correspondance épistolaire est autorisée par Anne d'Autriche et par Mazarin, dans un premier temps en tout cas.
Anne d'Autriche, oui, elle a cru que ça aiderait peut-être, elle a eu un cœur de mère et elle s'est dit que peut-être ça aiderait son fils à surmonter son chagrin, puisqu'il est allé lui-même mettre Marie en carrosse quand elle est partie pour La Rochelle et il était en larmes. Et il faut quand même pas manquer de dire que Racine s'est souvenu de ça. Dans Bérénice, vous êtes empereur, seigneur, vous pleurez et je pars.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de l'historienne Claude Dulon, émission consacrée aujourd'hui au premier amour de Louis XIV, amour de jeunesse qui le lia à une des nièces du cardinal Mazarin, Marie Mancini. Après un début d'histoire idyllique, la raison d'État commence petit à petit à l'emporter. La France est en guerre avec l'Espagne, guerre à laquelle le cardinal Mazarin met fin par le mariage du futur roi Soleil avec l'infante d'Espagne, sa cousine. Les tractations ont eu lieu, mais Louis XIV, qui jusqu'alors avait une entière confiance en Mazarin, commence à lui tenir tête. Comment s'y prend-il justement, Claude Dulon ?
Il s'y prend en ne faisant rien de ce que le cardinal lui demande, au point que celui-ci... Il ne dit pas qu'il va renoncer à épouser l'infante, non, il ne va pas jusque-là, mais il s'entoure de personnages, de jeunes seigneurs plutôt hostiles à Mazarin, d'ailleurs on en chasse un ou deux, il résiste même à sa mère, et c'est au point que Mazarin est obligé de lui écrire une lettre très belle qu'on a conservée, où il lui dit à son tour... Puisque vous ne voulez pas voir où est votre devoir, c'est moi qui vous quitte. Après vous avoir servi, je vous quitte et je m'en irai dans un coin d'Italie, etc. Alors là, Louis XIV a eu un peu peur, parce que c'est ennuyeux à 21 ans de se trouver sans un ministre qui en plus est en train de négocier la paix.
Mais pourtant, Marie Mancini doit un peu, essayer de défendre également sa position auprès de Louis XIV.
Bien sûr qu'elle essaie, mais que peut-elle faire ? Elle a d'autres arguments que son chagrin. Elle n'a pas d'arguments politiques. Et les arguments politiques sont de l'autre côté, ils sont très forts. Mazarin a créé Louis XIV. Vous voulez donc que pour un caprice, on recommence la plus sanglante guerre qu'on ait jamais vue ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ?
Alors, comment réagit aussi le conseiller de Philippe IV d'Espagne quand il apprend justement que cette correspondance dure ? Alors que finalement, les préliminaires du traité de paix ont déjà été signés. Comment est-ce qu'ils réagissent?
Ils réagissent habilement, mais de façon très rigoureuse, en disant à Mazarin, on nous a dit que le roi avait un attachement sérieux, nous voudrions savoir. Entre parenthèses, où nous mettons les pieds, mais enfin, ils le disent. Ça a été dit par le ministre espagnol qui négociait avec Mazarin. Alors, on a répondu, tous les jeunes gens ont des attachements, mais etc. Enfin, on a fait des phrases. Mais les Espagnols se sont beaucoup inquiétés de cette affaire.
Alors, Louis XIV continue quand même de penser à Marie au cours d'un voyage à Bordeaux. Que demande-t-il justement à sa mère? Et finalement, quelle sera la décision d'Anne d'Autriche?
Il demande à sa mère, oui, parce qu'il faut maintenant qu'Anne d'Autriche et son fils descendent également vers la frontière espagnole, puisque les négociations sont en bonne voie. Et il demande à sa mère, en chemin, de s'arrêter à La Rochelle pour aller voir Marie. Alors, elle n'a pas vraiment le courage de refuser, mais on prend un moyen terme, on dit qu'on fera venir Marie avec ses sœurs non mariées et la gouvernante à Saint-Jean d'Angély pour une visite de courtoisie à elle, Anne d'Autriche, puisqu'elle passe dans le voisinage. Alors évidemment, la rencontre n'arrange pas les choses.
D'accord, donc en fait, on essaie de sauver la face,
oui.
En quelques mots. Les amants, en tout cas, ne s'en laissent toujours pas compter. On peut même dire qu'ils rivalisent d'ingéniosité, parce que finalement, ils choisissent, je crois, de faire libérer le frère de Marie-Philippe Mancini, c'est ça?
Oui, elle avait un frère qui était un assez mauvais garnement, il se corrigera plus tard, qu'on avait bombardé duc de Nevers, Mazarin étant absent, on pouvait faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire. Et en effet, on a fait libérer ce garçon. Libéré, il n'était pas emprisonné, mais comme il ne faisait que des bêtises, on l'avait mis dans une forteresse de l'Est avec un précepteur pour qu'il apprenne un peu l'existence. Et on le libère pour qu'il serve d'intermédiaire, encore une fois, entre le roi et Marie.
Et finalement, est-ce qu'il sera démasqué par Mazarin?
Oui, bien sûr, puni, envoyé dans une autre forteresse. Oui, tout se sait, vous savez, dans les cours, on a toutes sortes d'espions, chacun a les siens.
En tout cas, en novembre 59, le traité de paix définitif, je crois, est signé entre la France et l'Espagne. Il scelle définitivement aussi l'alliance entre le jeune Louis XIV et l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. Mais les noces sont prévues à l'été. Or, le jeune roi et sa cour stationnent dans le sud-ouest de la France et le futur époux se sent seul. En tout cas, c'est ce que vous écrivez. Quelle femme fait venir Mazarin afin d'apaiser la solitude du roi?
Eh bien, on l'a pas fait venir uniquement pour ça, mais le couple Soissons, c'est-à-dire Olympe, Mancini et son mari Soissons, viennent rejoindre la cour. Et ça, c'est pas un très joli moment de la vie de Mazarin. Et il écrit, ravi, que un de ses espions lui écrit « Tout va pour le mieux, le roi a repris avec Madame de Soissons. Il est tout content d'avoir une jolie femme à ses côtés. Le mari est trop content aussi que le roi s'intéresse à sa femme. » Et bref, Olympe de Soissons distrait un peu le roi. Je ne sais pas, personne ne sait jusqu'où ça a été, mais enfin... On avait vraiment très peur que Louis XIV fasse une bêtise, monte à cheval et reparte. Ça l'a aidé à attendre. Et ça, les Espagnols ne s'en sont pas formulés, parce que peut-être ils ne l'ont pas su. Et en tout cas, le contrat était signé.
Vous écrivez également dans votre livre que Louis XIV, une fois marié, se rend à Brouage, là où Marie était en exil. Peut-on considérer ce voyage comme une sorte de pèlerinage à la mémoire de celle qu'il a follement aimée?
Oui, ça s'est passé quand toute la cour, y compris Marie-Thérèse, mariée cette fois-là à Louis XIV, a refait le voyage. Vous imaginez ce que c'était que ces voyages de remonter de la frontière espagnole jusqu'à Paris. Alors, il y avait des haltes partout. Et en effet, quand on est passé en Charente, il a abandonné pendant 24 heures sa nouvelle épouse et la cour pour aller faire un pèlerinage à Brouage.
Et on a des traces, en fait, de ça?
Je ne sais pas, on le sait par les espions, toujours, qui écrivaient. Mais en tout cas, je ne sais pas, vous êtes allé quelquefois à Brouage?
Pas du tout.
Eh bien, ça vaut la peine, parce que tous les cafés et bistrots s'appellent à Marie Mancini, à Louis XIV.
Oui,
ça les a frappés pour le tourisme, c'est très bon.
Mazarin nourrit aussi des projets de mariage pour sa nièce. Avec qui envisage-t-il d'ailleurs de la marier?
Vous parlez de Marie, là.
Oui, toujours Marie Montsigny.
L'essentiel, c'est de marier Marie et qu'elle s'en aille, surtout, et de ne pas la marier en France. Oh, ben alors, les prétendants, y en a beaucoup, parce que on se dit maintenant que le cardinal a réussi la paix avec l'Espagne. Il est le plus grand homme politique d'Europe, et on peut y aller, en quelque sorte. Alors, il y a le prince de Lorraine. Ce qui est assez drôle, il y a à la fois le prince de Lorraine et son vieil oncle, le duc de Lorraine. Et il y a une lettre très drôle de Mazarin, où il leur fait comprendre qu'il n'est pas dupe des sentiments tout à fait fins qu'ils éprouveraient pour sa nièce. Et puis, il y a un autre prétendant, qui est le connétable Colonna, le plus grand seigneur de Rome. Et Marie ne souhaite pour rien au monde retourner à Rome en fiancée, rejetée en quelque sorte du roi de France. Mais Mazarin juge que le plus sûr serait qu'elle retourne à Rome. C'est d'ailleurs un très beau mariage, c'est le premier seigneur de Rome. Et puis là, elle serait au sein de sa famille, un oncle cardinal, et elle serait surveillée. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais ça c'est une autre histoire.
Alors est-ce qu'elle, finalement, Marie aura une vie d'épouse heureuse après cette première histoire d'amour? Qu'est-ce qui va lui arriver?
Eh bien, elle aura quelques années heureuses en se voyant très bien traitée à Rome, un mari très ardent, mais malheureusement il était ardent un peu avec tout le beau sexe, comme on disait à l'époque. Et elle s'est conduite très maladroitement. Elle a eu évidemment 3 grossesses et 2 fausses couches en 6 ans. Et après ça, elle a eu une réaction absolument surprenante. Elle a dit « Je fais lit à part. Je ne veux plus prendre le risque d'être enceinte. » Mais dire à un homme, dire à un mari du XVIIe siècle, et à un Italien et à un homme comme Colonna, qui était connu pour sa fougue, lui dire « Je ne fais plus lit commun avec vous », c'était s'exposer aux pires ennuis. Et c'est ce qui est arrivé.
Alors elle finira, je crois, par voyager en Europe de cours en cours. Je crois que c'est un peu une vie d'exil.
Oui, et je me demande si elle avait la tête vraiment solide. Parce que le nombre de bêtises qu'elle va faire une fois livrée à son seul cerveau est quand même extraordinaire. Elle essaiera de revenir en France d'ailleurs et Louis XIV ne la laissera pas approcher de la cour.
Merci à vous d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur cette histoire d'amour qu'il y a Louis XIV à Marie Montsigny, la nièce du cardinal Mazarin. Histoire pleine de rebondissements, comme vous l'avez vu, et qui ne se termine pas justement à cela, puisque vous pourrez également découvrir dans le livre de Claude Dulon-Saint-Denis, qui s'appelle Marie Montsigny, publié aux éditions Perrin, le reste de la vie de cette femme. Livre qui a le mérite de nous faire partager avec force et finesse cette passion royale au XVIIe siècle.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.